Bien, ben, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Jean-Louis Gouju, je suis conseiller scientifique à la DGSIP. Ça fait partie des 60% dont parlait Philippe tout à l'heure. Donc moi, je suis enseignant à l'UPEC, Paris-Est, Créteil. Et pour être très concret, je viens des STAPS, j'ai dirigé la composante STAPS pendant 10 ans. Et c'est le fait que mon champ de recherche soit sur la construction des compétences qui m'amène sur ces voies dont je vais vous parler maintenant. Alors, effectivement, je vais faire une intervention assez complémentaire avec celle de Philippe, puisque moi, je vais essentiellement vous parler de la question des blocs de compétences. Donc, après les compétences, les blocs, vous allez dire, c'est pas tout à fait ça. Et je vais essayer surtout de répondre à un certain nombre de questions concrètes qui sont posées par les équipes. Donc on fait un petit peu le tour de France des établissements pour aider les équipes sur ces fameuses mises en place, puisque votre question, c'est de dire, finalement, moi, par rapport à l'endroit où on est avec mon équipe, qu'est-ce qui me reste à faire, par où je peux passer et quelles sont les conditions pour réussir. Alors, remarque préalable. Vous avez vu, il y a un certain nombre de textes qui arrivent. Déjà, premièrement, pour vous rassurer, l'idée de la mise en place des blocs de compétences, c'est pas le ministère ou la DGSIP qui descend aujourd'hui un 2 octobre et qui vous dit « vous repartez de la page blanche et on viendra reprendre les copies au 30 décembre ». En d'autres termes, en dehors de la plaisanterie, on est vraiment là sur une démarche sur lequel on a du temps, sur lequel on a besoin de construire ensemble, et on n'est pas sur, vous voyez, quelque chose à mettre en œuvre en 2 mois comme une injonction administrative, mais on est bien là sur une démarche qui engage un petit peu toutes les équipes. Deuxième élément, se souvenir que, vous allez voir dans l'exposé, je pense que ça générera un certain nombre de questions. Nous sommes en ce moment sur des logiques qui peuvent paraître parfois un peu contradictoires. On est bien sur une logique avec la loi OR, l'arrêté licence, qui sont des logiques qui donnent la main complètement à l'autonomie des établissements. Et de l'autre côté, il faut comprendre qu'il y a des logiques qui sont notamment celles de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, qui sont des logiques beaucoup plus centralisatrices et beaucoup plus avec du traitement en amont. Et bien évidemment, dans la trajectoire que nous devons avoir, nous, au sein de nos équipes, il faut tenir compte de ces aspects, et comme disait tout à l'heure Philippe, essayer de trouver les meilleurs compromis, à la fois en termes d'autonomie, de capacité des établissements, mais aussi de donner la visibilité de ce que l'on fait pour l'extérieur et à l'aide des outils qui nous sont donnés, et les blocs de compétences sont parmi ces outils. Et on a bien évidemment là des éléments qui en plus sont en cours. Il y a des NCU, il y a des politiques d'établissement, il y a des contractualisations qui sont déjà en cours. D'abord, pourquoi, c'est la question que vous a posée Philippe, il vous a posé la question, pourquoi les compétences? Moi, je vais vous parler un petit peu plus de pourquoi les blocs de compétences et blocs de compétences. Il se trouve que j'ai déjà chargé de mission quand on a lancé les premiers travaux sur la mise en place des référentiels de compétences à la fin des années 2008-2010. Et à cette époque-là, effectivement, il y avait une demande du monde professionnel. Vous avez parlé tout à l'heure de l'insertion professionnelle, qui était celle de dire « Ah, on a besoin que les diplômés ils aient plus de savoir-faire, plus de gestes spécifiques ou de compétences professionnelles. » On est 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, dans une optique complètement différente, et pas seulement nous, mais le monde professionnel exactement, où quand on demande au monde professionnel quels sont les éléments qui vous manque le plus ou dont vous auriez besoin le plus chez les diplômés, la réponse, elle jaillit immédiatement, les compétences transversales. L'anglais, le numérique, les capacités de synthèse, la communication, etc. Donc finalement, on se retrouve dans une situation de plus en plus forte où un certain nombre de compétences qui sont développées chez nous dans l'enseignement supérieur et qu'on considérait naguère comme étant relativement transversales, n'ayant pas de lien direct avec les questions d'employabilité ou les questions professionnelles, se retrouvent au cœur de l'employabilité. Et donc ça, c'est important, parce que si on veut que nos étudiants puissent être mieux insérés professionnellement, eh bien, il faut que ces compétences-là soient valorisées et soient reconnues dans les formations. Et c'est ce qui amène un certain déplacement, parce que certains d'entre vous pourraient dire « Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la loi Pénicaud, ministre du Travail ?» Eh bien, tout simplement, le fait que, à partir du moment où un certain nombre de des compétences qui sont construites chez nous correspondent à des enjeux pour l'insertion professionnelle de nos étudiants, alors on peut considérer dans un sens large que nos formations, toutes nos formations, sont professionnalisantes, y compris celles qui, a priori, apportent des contenus qu'on pourrait juger seulement disciplinaires ou seulement académiques, et non pas seulement les licences pro ou les masters ex-pro. Donc, il y a bien une question là de valorisation de ce qui se fait chez nous, hein, et pas seulement des valorisations des compétences professionnelles. Et puis, il y a aussi une question de formation tout au long de la vie, entrante et sortante, c'est-à-dire que la mobilité, vous savez qu'il y a quand même 110 000 dans Parcoursup, il y a eu 110 000 demandes de reprise d'études chez nous. Il faut comprendre que ces gens-là, ils arrivent avec déjà des compétences. Donc il va falloir, ça va nous poser des questions de VAE, ça va nous poser des questions de positionnement, et ça va nous poser des questions d'interprétation des compétences. Donc, vous voyez, il faut bien qu'on ait des éléments qui permettent à nos diplômés de valoriser leurs compétences à l'extérieur, et pas seulement en insertion, mais aussi en poursuite d'études. Et il faut aussi se donner les outils pour permettre de valoriser nos formations, pour les rendre les plus accessibles et les plus attractives en formation continue ou formation tout au long de la vie. Troisième point important. Vous avez eu déjà des bouts de ce débat tout à l'heure. Bah, c'est de dire que nous avons une nomenclature depuis 2014, donc on a 49 maintenant mentions de licence, 176 de licence pro, 252 de master. On est quand même là sur des dispositifs qui sont des dispositifs de certification, on va dire, nationale. Donc une licence mention STAPS, eh bien, qu'on soit à Rouen, à Caen ou à Toulouse, il y a bien un moment où, vis-à-vis de l'extérieur, il faut que la visibilité soit propre à définir une certification nationale comme un diplôme porté par l'enseignement supérieur. Qu'ensuite il ait des colorations, qu'ensuite il ait des adaptations, qu'ensuite il ait des modalités totalement distinctes de construction des compétences dépendant de nos ressources scientifiques, dépendant de nos ressources pédagogiques, ça c'est une chose. Mais à l'arrivée, quand on discute avec les branches professionnelles, quand on discute avec d'autres ministères, puisque nos étudiants vont parfois continuer leurs études dans d'autres architectures, eh bien la demande, c'est de dire, mais finalement, quelle est la garantie que vous nous donnez que cette licence soit bien, permette bien la construction d'un socle de compétences identiques, quel que soit l'endroit. Donc voilà, l'idée, hein, c'est bien, encore une fois, de faire exister et de valoriser les acquisitions construites au sein de l'enseignement supérieur, au sein d'un ensemble un petit peu plus vaste, hein, et c'est pour ça que je vous parlais de ces éléments-là. Alors, du coup, eh bien, ça nous met dans une position où, si on veut le valoriser, eh bien, il y a, Philippe l'a dit tout à l'heure, il y a un endroit central en France, maintenant, en interministériel, ça s'appelle le répertoire national des certifications professionnelles. Alors, méfiez-vous du mot « professionnel », parce que depuis 2002, toutes les certifications de l'enseignement sup ont vocation à figurer sur ce référentiel. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les certifications de l'enseignement sup sont décidées en concertation avec les milieux professionnels, etc. On est bien dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, dans une conception très large du mot professionnel, qui consiste à dire qu'il y a bien des éléments, y compris transversaux dans l'enseignement sup, qui permettent et qui sont des éléments et des enjeux importants d'employabilité, de reconnaissance pour nos diplômés. Alors du coup, bah, comme il y a eu cette loi liberté de choisir son avenir professionnel, et bien dedans, il a été défini un concept qu'on appelle les blocs de compétences, avec une définition que vous avez sur la droite, sont constitués de blocs de compétences, ensemble homogène et cohérent de compétences, contribuant à l'exercice autonome d'une activité, on peut regretter le mot professionnel, et pouvant être évaluée et validée. Et donc, globalement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie maintenant que toute certification, si on veut qu'elle soit utilisable, mobilisable par quelqu'un en formation initiale ou en formation continue, il faut qu'elle figure sur ce registre, et pour figurer sur ce registre, eh bien voilà, vous avez un ensemble de prérequis, on va dire, de conditions. Qu'il y ait un référentiel de compétences, un référentiel d'activité, qu'on puisse essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas redondance avec des certifications trop proches, et que ça soit proposé en bloc de compétences. Alors c'est pour ça que je vais rentrer maintenant de plus en plus dans le détail concret pour vous parler de la notion de bloc de compétences. Alors, derrière cette définition, qu'est-ce qu'il y a à retenir ? En premier lieu, et Pierre l'a souligné tout de suite dans son introduction, eh bien, c'est qu'on entre dans une logique de certification et non plus dans une logique de formation. Alors ça, tout le monde le dit, alors c'est deux grands mots, mais c'est un choc de culture pour nous, parce qu'on n'a jamais fait comme ça. On n'était pas habilité ni accrédité comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'on est dans un rapport entre processus et produit. Ça veut dire que quand on parle de certification, la question n'est pas de savoir par quel moyen, par quelle voie on a réussi à ce que des étudiants construisent des compétences, mais on est là sur l'exercice de quelles sont les garanties qu'on donne que cette compétence elle est bien présente vis-à-vis de l'extérieur, entrant encore une fois ou sortant. Donc, ben, ça fait bizarre. Parce que nous, finalement, tous nos points de repère. Tout à l'heure, Philippe parlait, mais qu'est-ce qui existe chez nous ? Modalité de contrôle de connaissances. Mais on a aussi des UE, des EQE. On travaille en année. On met en place des semestres. Et on compte le temps de travail en ECTS. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? On nous dit, bah, écoutez, tout ça, c'est bien joli. Mais finalement, on va s'intéresser finalement aux produits. Alors, on ne va pas parler du diplômé comme un produit X. Mais néanmoins, on va bien se poser la question de se dire, mais au bout du bout, qu'est-ce qui compte ? Quelles sont les garanties que l'on donne pour dire à l'extérieur, ben voilà, nos étudiants, ils ont, enfin, nos diplômés, dans telle mention, voilà les compétences dont ils ont. Hein, et Philippe insistait sur la question de l'évaluation. Une fois qu'on a dit ça, ben ça veut, voyez, ça veut surtout pas dire qu'on va plus faire les formations, qu'on va complètement transformer les formations, mais ça veut dire qu'on va se poser la question de savoir comment, au travers de nos formations, on va être en mesure de se mettre en équipe, de construire des grilles, de pouvoir attester ses compétences. Deuxième point sur le au-delà de la question certification-formation, le deuxième point important. C'est de considérer que quand on est en bloc de compétences, pourquoi on l'a fait ? Eh bien, c'est de donner les caractéristiques, comme je disais, du produit. Et le produit, eh bien, c'est le produit terminal. Donc un bloc de compétences, eh bien, c'est surtout pas, par exemple, des éléments de première année ou des éléments de deuxième année. On n'est pas là sur un découpage du processus. On est là sur un découpage du produit. Ça veut dire qu'un bloc de compétences, c'est un bout du diplôme. Attribuer un bloc de compétences à un étudiant, c'est attribuer un bout de la licence ou un bout du master. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Posez-vous la question, par exemple, de est-ce qu'on peut attribuer un bout de la licence avec ce que ça nécessite de maturation, de développement en 3 ans ? Est-ce qu'on peut l'attribuer au bout de 2 mois à quelqu'un ? Hein, on reviendra là-dessus. Troisième point, pourquoi on met les blocs et pourquoi on ne parle plus des référentiels de compétences comme on en parlait en 2010 ou 2012. Eh bien, pour ceux d'entre vous qui s'occupent un peu de ça, éventuellement comme moi, prenez certains métiers, vous tapez sur Google et vous regardez les référentiels de compétences menés à certains métiers. Eh bien, vous savez très bien qu'il y a par exemple d'autres ministères que nous, il y a la culture, les sports, la santé, il y a des boîtes privées, etc., qui font des formations et qui donnent des référentiels de compétences vis-à-vis de certains métiers. Premièrement, déjà, ordinairement, un référentiel de compétences qui se respecte, ordinairement, ça fait 60 pages. C'est à peu près incompréhensible. Et une fois que vous avez fait cette liste-là, vous ne savez plus où vous en êtes. Deuxièmement, il suffit de changer de point de vue, et vous, ne serait-ce qu'entre nous, entre collègues, hein, quand on fait des réunions, vous regardez les référentiels de compétences, on parle tous de la même chose, mais nos référentiels ne se ressemblent pas. Donc finalement, l'idée, c'était de se dire, on va peut-être essayer de trouver quelque chose qui va nous permettre d'avoir une espèce de grammaire commune, au-delà de la façon dont nous avons, nous, d'exprimer les compétences qui sont construites, hein, puisqu'on est quand même largement dépendant de nos disciplines. Eh bien, il y a eu cette idée de passer à une logique qui soit une logique d'activité, et moi je mets d'activité menée à bien. En d'autres termes, la question, elle n'est pas seulement de lister les compétences, mais de dire finalement, quels sont les éléments, si on regarde l'activité que ça permet de mener à bien, eh bien, à ce moment-là, on va retrouver dans ce paquet un ensemble de compétences, et là, on va pouvoir se mettre d'accord au-delà de nos façons de nous exprimer. En d'autres termes, si je parle de quelqu'un qui est capable, de certains usages numériques, hein, pour revenir sur les documents de Pierre, eh bien, là, selon les endroits, hein, on sera encore une fois sur quelque chose d'assez transversal. Et donc on va pouvoir décrire, si je décris les activités que nos diplômés peuvent mener à bien à la suite de leur formation, vous voyez que ça sera déjà beaucoup plus facile de dialoguer avec l'extérieur que si on doit revenir à nos 60 pages, je plaisante, de référentiel de compétences. Dernier point sur la notion de bloc de compétences, on l'a déjà dit tout à l'heure, on est bien sûr un dispositif de valorisation et non pas sur un dispositif de substitution. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on est bien là sur le fait de dire allez, notre licence, on est dans une licence de, je sais pas, mathématiques. Elle a un ensemble de connaissances, de savoirs, de savoir-faire, de stages. On met en place des développements, on a un impact énorme. Eh bien, au bout de ça, quelles sont finalement les compétences, quels sont les points de repère en termes de compétences qu'on peut donner ? Ça ne veut pas dire qu'on va résumer nos formations à ces compétences. Ça veut dire qu'on va extraire de nos formations des points de repère qui vont permettre une lisibilité beaucoup plus forte à l'extérieur. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on est dans un amphi de droit. Si on dit, par exemple, qu'à la fin de notre diplôme, nos étudiants ils vont savoir interpréter une décision de justice, ça ne veut pas dire qu'on va, de fait, faire une formation technique à l'interprétation d'une décision de justice. Donc on est bien là, vous voyez, sur une logique de point de repère choisi, et on n'est pas sur une logique de transformation où on oublie tout le reste et on ne garde plus que la formation à ces compétences-là. En d'autres termes, nos formations sont beaucoup plus larges que les blocs de compétences que l'on veut bien en donner. On peut monter en dessous. Alors, si je continue à m'approcher maintenant un peu des aspects les plus concrets. Si on parle, comme je le disais à l'instant, qu'on ne forme pas seulement à des blocs, on va se dire, mais alors finalement, on peut donner ces points de repère de façon tout à fait libre, et on va choisir, nous, à quand, un ensemble de points de repère, parce que ça, on se sent fort là-dessus. Peut-être qu'à Rouen, ils en feront d'autres, et peut-être qu'à l'UPEC, ça sera encore d'autres. Il y a juste un petit souci, c'est que cette unité bloc de compétences, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'existe institutionnellement qu'à un seul endroit. Ce sont les fiches RNCP. Par conséquent, s'il doit y avoir à terme de la VAE, du financement, de la reconnaissance, des passerelles, de la mobilité, eh bien, on est là bien sur la mise en place d'un seul et même référentiel. Et donc, les blocs de compétences que l'on trouve, il faut qu'ils figurent sur ce référentiel. D'où les réponses déjà qui étaient apportées tout à l'heure en disant, mais finalement, il faut bien que nos formations figurent sur les fiches RNCP, parce que si on veut faire reconnaître nos blocs de compétences, eh bien c'est à cet endroit-là qu'ils seront notés et nulle part ailleurs. Alors tout ça, ça a des conséquences. Première conséquence, identifier les acquis, repères. Encore une fois, pas la liste intégrale de tous les acquis dans une optique microscopique, mais bien essayer de se dire, mais finalement, si on doit donner quelques points de repère sur nos formations, lesquels on va choisir. Et là, pour ça, il y a un travail qui a maintenant une dizaine d'années, qui a été publié janvier 2015, notamment pour les licences générales. Hein, c'est qu'on a demandé aux conférences de directeurs et doyens, on a fait déjà un travail extrêmement important depuis de nombreuses années, qui ont consisté à essayer de lister, on va dire, déjà un certain nombre de compétences qu'on pouvait juger comme étant des compétences repères. Je vais le dire, je vais jeter une pierre dans mon jardin. Le seul élément qui nous limite à ça depuis 10 ans, c'est qu'une fois qu'on a un référentiel, on est souvent assez content et on n'y touche pas. Et moi, pour avoir coordonné les référentiels de STAPS entre 2003 et 2005, parce que c'était des métiers exercice réglementés, on n'y pouvait rien, je déplore que finalement, depuis 2006, on n'y ait quasiment jamais touché. Et pour moi, un référentiel de compétences, et surtout chez nous, ça n'a de valeur que si c'est vivant et dynamique. Et malheureusement, petite remarque en aparté, on a tendance à jamais les faire suffisamment vivre. Deuxièmement, il va falloir les présenter sous bloc. Donc on a fait un travail, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a consisté au niveau de la DGESIP à essayer de regarder comment on pouvait fabriquer des blocs de compétences. Et troisièmement, essayer de regarder comment on pouvait essayer d'avoir des éléments de granulométrie, hein, de grains, identiques. Parce que vous voyez bien qu'on peut là aussi faire des formations en 5 blocs, 10 blocs. Quand on a commencé avec le ministère du Travail, on en a vu arriver avec 30 blocs. Et à ce moment-là, on retourne à la formation et ça n'a plus de sens. Donc vous voyez, il fallait qu'on essaye de trouver un grain commun. Et pour ça, on ne s'est pas arrêté à la notion d'activité menée à bien. Mais il y avait aussi le fait que ça soit une activité socialement significative. Socialement significative, encore une fois, pour qu'on ait des zones de partage sémantique et qu'on puisse s'entendre, y compris avec des collègues d'autres formations. C'est là, vous voyez, que quand on travaille là-dessus, on est complètement dans le registre là des équipes d'établissement, encore une fois, des conférences. On n'est surtout pas sur un dispositif top-down, c'est pas la DGESIP qui invente des référentiels de compétences et qui les impose aux établissements. En tout cas, c'est l'une de mes missions. L'objectif, c'est au contraire de se nourrir en permanence de ce qui se passe au sein des établissements, et c'est pour ça qu'on fait un petit peu ce tour de France, que ce soit les NCU ou que ce soit les travaux des différentes conférences, pour avancer et faire que, finalement, ce qui ressort en termes de fiches RNCP soit bien le fruit d'un plus grand consensus possible à l'échelle nationale. Alors, puisque j'en suis à l'échelle nationale, rapidement, bon, vous l'avez compris, les fiches RNCP, pourquoi ? Ce sont des diplômes nationaux, Donc quand on est là-dessus, on est bien à l'échelle nationale, et c'est la DGZIP qui enregistre au RNCP, en l'occurrence c'est William ici présent qui s'occupe de ça. Ça veut encore une fois dire que il faut faire attention avec la question des diplômes d'établissement, parce que c'est pas le même registre. Il faut faire attention à la question des parcours, j'y reviendrai si on a des questions là-dessus. Il faut faire attention encore une fois à toutes les distinctions et tous les obstacles et toutes les capacités d'autonomie des établissements pour encore une fois faire vivre la qualité de ce que l'on propose dans un cadre national, mais qui permette aussi de bien repérer les spécificités des établissements. Alors, petit aparté, on essaye aussi de coller. Donc, vous retrouverez effectivement la demande qui est faite dans la loi Pénicaud, que chaque fois qu'il y ait attribution d'un bloc, il puisse y avoir un certificat, ce qui signifie encore une fois la capacité d'usage à l'extérieur. Alors, rapidement un exemple, hein, vous les avez en bloc transversaux, on vous a parlé des objectifs de Dublin. Sachez simplement que pour les licences générales, on a positionné 5 blocs transversaux. Pour les masters, on a positionné 4 blocs. Pour le doctorat, il n'y a que des blocs transversaux et il y en a 7. On peut continuer. Alors, maintenant, quels sont les éléments qu'on va vous demander ? Il y a deux éléments essentiels. Un processus d'abord d'identification. Donc, quels sont les blocs ? Et qui va concourir à ces blocs-là. On parlait tout à l'heure de multidisciplinarité. Ça veut donc dire qu'un bloc, a priori, il n'est pas strictement, enfin, la majorité d'entre eux sont pas strictement liés, bien sûr, à un enseignement ou à une UE. Mais il va falloir se poser la question de, s'il y a ce bloc, quelles sont les contributions significatives à ce bloc? Est-ce que mon enseignement participe à tel ou tel bloc? À quelles conditions? Est-ce que c'est majoritaire ou est-ce que c'est minoritaire? J'y reviendrai. Et enfin, mettre en place un dispositif d'évaluation et de certification. Et ça, je vais le détailler. Alors, identification des blocs, les fameux tableaux qui posent un peu problème. L'objectif de ce tableau est d'essayer de vous démontrer qu'on peut commencer le boulot, on peut rentrer dans la démarche à partir de là. C'est pas toute la démarche. Premièrement, quand il y a un bloc, a priori, une compétence, c'est forcément intégratif. Donc, ça mobilise plusieurs enseignements. Et un enseignement peut participer à la construction de plusieurs blocs de compétences. Ça veut donc dire que, du coup, on peut réaliser une forme de tableau qui consiste à dire... si on regarde au niveau de l'équipe pédagogique, eh bien, ce bloc-là, il est préférentiellement développé dans ces enseignements-là. Et là, je vous ai fait un tableau sur la licence pour dire, attention, c'est pas forcément non plus distribué sur les 6. Par exemple, en STAPS, il y a un besoin de carte professionnelle à la fin de la deuxième année, hein, pour des raisons que je vais pas exposer ici. Eh bien, les enseignements de licence liés à ce bloc de compétences, on les positionne au cours des deux premières années. Ça ne veut pas dire que ce sont des blocs de L2, ça veut dire que ce sont des blocs de licence, mais dans l'ensemble des STAPS en France, il y a un accord pour que ces enseignements-là, ces évaluations-là, aient lieu au cours des deux premières années. On peut faire aussi un autre tableau, dans l'autre sens, bien sûr, à essayer de regarder quelles sont les participations, avec là, comme je vous le disais, en tant que collègue, la première fois que vous faites une réunion dans l'équipe, eh bien tout le monde va réclamer le fait d'être partie prenante de tous les blocs. Et c'est un petit peu logique, puisque c'est la façon dont on procède. Donc là, encore une fois, attention au syndrome de la croix partout. Sinon, on s'en sort pas. La question, c'est de se dire, finalement, sur tel bloc de compétences, quelles sont les contributions les plus significatives ? Ça veut pas dire que tous les autres n'y contribuent pas. Mais voyez bien que si on veut en arriver à l'évaluation, à la construction, là, il y a un travail d'équipe pédagogique. Dernier point, attention aussi au fait qu'on est bien sur des bouts de diplôme. Et il y a beaucoup d'endroits qui disent « Ah, mais il n'y a aucun souci, mais je vois ça beaucoup dans les autres ministères. Hein, » Et par équivalence, eux, ils ne disent pas ça comme ça, ils ne disent pas UE. Mais l'idée, ça serait de dire « Ah ben, de toute façon, je prends une UE égale un bloc, et puis comme ça, on y arrive. » Faites attention, c'est quand même beaucoup plus compliqué, j'allais dire, que ça, et notamment par rapport à des compétences qui se construisent sur des temps longs. Alors, la diapo maintenant la plus, j'allais dire, la plus importante de l'exposé, ben c'est que finalement, il va falloir en arriver à l'évaluation. Alors finalement, comment on fait ? Concrètement, une fois qu'on a dit, voilà, on se met tous d'accord, on a identifié les blocs, les contributions les plus significatives. Alors j'ai pris quatre exemples qui ne sont que des exemples et qui sont volontairement caricaturaux pour faire réagir. Alors on va prendre l'hypothèse totalement banale de dire, ben on a pour un bloc, on a identifié quatre enseignements, hein, ou quatre EQE, comme vous voulez, qui sont contributifs majoritairement. On s'est mis d'accord, et ce sont ces quatre enseignements-là. Il y a quatre possibilités. Première possibilité, eh bien celle que mon collègue vous a montré tout à l'heure, eh bien on construit ensemble une grille critériée. Et on dit, bah, pour ce bloc-là, voilà les indicateurs de compétences, et on se met d'accord ensemble. Et puis, dans chacun de nos enseignements, on se pose la question à la fin de savoir si, finalement, on l'attribuerait ou pas, ce bloc. Et puis ensuite, eh ben, si on est quatre, ben, on se met d'accord au niveau de l'établissement, au niveau de l'équipe, est-ce qu'il faut qu'il y ait quatre validations, ou est-ce qu'il en faut deux, ou est-ce qu'il en faut trois pour considérer que le bloc est attesté. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un travail d'équipe pédagogique. Deuxième possibilité, ce qui se retrouve à beaucoup d'endroits, mais on le fait aussi beaucoup, nous, dans les établissements, ben, on se dit, ben, on a construit une grille commune, ben, poussons le bouchon un peu plus loin, on fait une épreuve commune. Et à ce moment-là, l'épreuve vaut attribution du bloc. Donc on voit bien les études de cas, on voit des mémoires, on voit un certain nombre de possibilités qui sont offertes de ce côté-là. Troisièmement, ça n'existe jamais, puisqu'on s'aime tous dans nos établissements, mais imaginons une équipe où on ne se parle pas beaucoup. Imaginons une équipe où les quatre collègues concernés ou binômes ne se parlent pas trop. Eh bien, c'est celle que vous retrouvez dans l'arrêté licence où on dit, bah, finalement, on fait la moyenne générale des enseignements de ces quatre enseignements. Et c'est pour ça que dans l'arrêté licence, vous avez par exemple une référence à la compensation interne au bloc. Et seulement interne, puisque vous avez dû comprendre dans mon exposé qu'il y a quand même une opposition plus que forte entre la question des compétences et la question de la compensation. Et enfin, dernier point, parce qu'on le retrouve, là on a quand même déjà pas mal avancé, notamment en STAPS de ce côté-là, et on a vérifié qu'il y avait quand même, bien évidemment, des progressions en termes d'enseignement, et quand vous avez la progression, bah, vous avez des prérequis, vous avez des niveaux repères, eh bien, on voit par exemple que sur certains enseignements, ben, en fait, si vous en avez qui sont construits comme ça, en cours de trois années, ben, vous avez deux enseignements de licence 3, dont les prérequis sont des éléments qu'on va retrouver en L1 et en L2. Et donc finalement, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. On fait les moyennes des deux enseignements du plus haut niveau en L3 et ça vaut attribution du bloc. Donc je suis désolé, hein, les éléments que je vous ai donnés là sont des éléments, encore une fois, uniquement repères. Alors pour terminer, quel est le message ? Premièrement, le message, encore une fois, j'ai commencé par là, je terminerai par là. c'est de dire, on vous demande absolument pas de déchirer les maquettes et de refaire les maquettes avec des blocs. On est bien là sur une modalité qui consiste à dire, on part des maquettes existantes, mais on avance résolument vers l'approche par compétences. Donc tout le monde peut rentrer dans l'approche, et c'est un vrai point de départ. Et c'est compatible, notamment avec les dispositifs, on a fait les vérifications avec l'AMU, on peut travailler sur des étapes avec des validations de blocs et des modalités de contrôle de connaissances sur Apogée. Deuxièmement, retenez surtout qu'on est là sur une démarche de valorisation. On est là pour que nos diplômés, pour que nos enseignements, pour que nos diplômes soient mieux reconnus à un moment où vous savez très bien, puisqu'il y a un seul référentiel, que nous sommes challengés sur un certain nombre de points, et notamment de compétences, y compris par des formations tout à fait privées. Troisièmement, retenez aussi que c'est pas un boulot en 15 jours, qu'on est sur des travaux qui prennent du temps et qui mobilisent les étapes pédagogiques, les équipes pédagogiques. On n'est donc pas là sur 15 jours, mais on peut être là sur la dimension, en tout cas, préparatoire à un contrat. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y mettre, il faut rentrer dedans, mais ça veut dire que on peut commencer par des équipes qui ont déjà très bien travaillé sur les approches compétences, et que c'est pas seulement l'année d'avant le contrat. Enfin, vous voyez, c'est pas. On est bien sur une démarche d'importance assez longue à entreprendre. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie. Désolé du côté peut-être un peu caricatural de certains propos, mais le temps était un peu contraint. Voilà.